J'ai presque regretté d'avoir lancé ce sujet pour ce deuxième dimanche du mois de juin dans notre série de cultes en 3D, les questions de la vie. Pourquoi la souffrance ? Oui, j'ai presque regretté parce que justement la saison estivale de Cannes commence, on a plutôt envie de sujets un peu légers, mettre son chapeau de paille, son maillot de bain et d'aller à la plage. Et puis aussi parce que c'est une question extrêmement difficile, hein, pourquoi la souffrance ? Toutes les questions qui commencent par pourquoi, et on l'a vu tout à l'heure, sont des questions difficiles et dont les réponses ne peuvent pas se faire en deux phrases. Et puis aussi parce que la question de la souffrance est éminemment personnelle et elle trouve un écho différent chez chacun d'entre nous. Alors, proposer des réponses globales à une question qui est très personnelle, c'est compliqué. Comme on disait dans les années 90, c'est pas évident. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité, comme chaque dimanche d'ailleurs, mais peut-être plus particulièrement ce dimanche, que j'aborde cette question, pourquoi la souffrance, en ayant pleinement conscience de mes limites. Malgré tout, la question de la souffrance vaut la peine d'être posée parce qu'elle pose des questions qui touchent à l'essentiel. Qui touchent à l'essentiel dans la vie, ce sont des questions fondamentales, qui touchent au sens de la vie, qui touchent aussi à l'existence même de Dieu. Vous avez déjà entendu cette phrase, certainement, « Si Dieu existe, pourquoi permet-il la souffrance ?» Et on pourrait préciser, « Si Dieu existe, pourquoi permet-il les génocides, la torture, les guerres, la Shoah, le terrorisme ?» La maladie, les enfants brutalisés, les enfants soldats, les viols, l'exploitation des êtres humains, les épidémies, et la liste pourrait être très longue de toutes les souffrances humaines, sans parler de la vôtre, celle qui vous serre peut-être le cœur, que vous ressentez ce matin. Après le tsunami de 2004, qui a fait 250 000 morts, dans l'océan Indien et sur les bords, sur les rivages. Un journaliste a écrit « Si Dieu est Dieu, il n'est pas bon. Et si Dieu est bon, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être les deux à la fois, surtout après la catastrophe de l'océan Indien. » Et là, ce journaliste mettait le doigt sur la question qu'on se pose depuis 2000 ans, et peut-être plus encore, une question qui met la relation en relation la souffrance humaine avec à la fois la bonté de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Comment un Dieu bon et tout-puissant peut-il permettre la souffrance ? C'est impossible. Ou alors il n'est pas bon, ou alors il n'est pas tout-puissant. Il n'est pas bon. Et alors il permet, et il est même sadique parce qu'il permet la souffrance dans le monde, ou il n'est pas tout-puissant et il ne peut pas, il n'a pas les moyens d'endiguer ce flot de souffrance. Il laisserait faire parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. Il est peut-être bon, mais il n'est pas tout-puissant. Il est peut-être tout-puissant, mais il n'est pas bon. Il ne peut pas être tout-puissant et bon à la fois. Et la souffrance ? Face à la souffrance, on est obligé de conclure d'arriver à cette conclusion, pour rester cohérent, Dieu n'existe pas. Le Dieu que nous révèle la Bible, à la fois bon, entièrement bon et tout-puissant, ne peut pas exister. La souffrance pose la question de l'existence de Dieu et aussi la question du sens de la vie, qui est présente dans cette interrogation. Pourquoi ? Dans quel sens on va ? Dans quelle direction ? Pourquoi ? Dans quel but la souffrance ? Pourquoi la souffrance ? Dans quel but ? Quel est le sens de tout cela ? Quel est le sens de tout ce micmac ? Et je ne résiste pas à la tentation de citer, ça revient, comment un Dieu qui serait bon et tout-puissant pourrait-il permettre la souffrance ? On en a parlé. On en arrive à cette cette citation de Woody Allen suite à son film Magic in the Moonlight, sorti en 2014. Pas un super film, pas un super Woody Allen, mais la citation est très intéressante. C'est Woody qui parle. Et il dit « Je partage totalement les positions du personnage joué par Colin. Je ne crois en rien si ce n'est ce qu'on voit et ce qu'on vit. » Ouais, c'est bien les courants d'air, mais ça ferme les fenêtres. « On vient au monde, dit-il, puis toute la vie n'est qu'une suite de hasards, d'accidents, de chances, d'événements aléatoires. La vie n'a aucun sens, l'univers n'a aucun sens, tout cela n'est qu'un vaste phénomène hors de notre contrôle. » C'est tragique. C'est Woody qui parle, Woody Allen qui parle. Rien n'a de sens et c'est tragique. Et la réalité de la tragédie, de notre existence et de nos souffrances, pose des questions existentielles tout à fait considérables. Et encore une fois, je n'ai pas la prétention ce matin de répondre à toutes les interrogations, mais j'aimerais simplement peut-être faire quelques propositions. Comme un peu des cairns, vous savez, sur les chemins de randonnée, beaucoup dans les Pyrénées, un peu moins dans les Alpes, mais c'est des tas de cailloux qui donnent la direction. Et ces tas de cailloux, c'est fait par nous, les randonneurs, et on les met pour le suivant en cas, pour donner la direction en cas de brouillard. Et surtout dans les pierriers, vous savez, des pierriers, des énormes étendues de pierres, et là on ne sait pas où est le chemin, il n'y a pas de chemin. Et il y a ces cairns qui nous montrent le chemin. Et donc le premier cairn est le suivant. Dans la Bible, des croyants, c'est-à-dire des hommes de foi, crient leur questionnement par rapport à la souffrance. Et ils le font à Dieu, ils crient à Dieu et ils disent pourquoi, et des pourquoi retentissants, et des pourquoi qui sont difficiles à entendre. Et Yvonne a déjà parlé d'Habacuc, mais on pourrait parler aussi de Jérémie. Et Jérémie, c'est un prophète, lui aussi, dont la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Et ça, c'est un euphémisme. D'ailleurs, le mot Jérémiade vient du mot Jérémie. C'est un peu péjoratif, Jérémiade, mais ça montre que Jérémie a vécu une vie de souffrance. Et voilà ce qu'il va dire dans Jérémie, dans le chapitre 15 de son livre. « Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente ? Et ma plaie douloureuse, rebelle aux soins. » Il n'y a rien pour la soigner, ma plaie. « Vraiment, pour moi, tu es, et il parle de Dieu là, tu es, Dieu, une source trompeuse au débit capricieux. » Il s'adresse à Dieu et il lui dit, tu es une source capricieuse, une source trompeuse, tu m'as trompé sur la marchandise. Et puis tu es une source au débit capricieux, tu fais tes caprices de star, tantôt c'est bien, tantôt c'est vraiment mal ce que tu m'offres. Tout ça ressemble à de l'acharnement en Dieu. Et Jérémie, et c'est remarquable, n'hésite pas à le lui dire. Et on pourrait continuer, on pourrait parler de Job, lui aussi un spécialiste de la souffrance. Mais je voudrais citer cet auteur du psaume 22, David, qui va dire à un moment, « oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu ne réponds pas. Tu m'as abandonné avec mes souffrances et avec mes questions sur la souffrance. Pourquoi ? Encore un pourquoi. Tu nous laisses avec nos souffrances et nos questions sur la souffrance. » Et ces questions que posent ces hommes de foi, ces croyants, ressemblent plutôt à des cris. À des cris. Et ce sont le fait de croyants, c'est-à-dire des gens qui croient en l'existence de Dieu. Et on voit donc que dans la Bible, ce livre de la foi, il y a un espace pour ce genre de questionnement par rapport à la souffrance. Et s'il y a un espace dans la Bible pour cela, il y a aussi un espace dans ma foi, dans ma relation avec Dieu, un espace pour le questionnement. Et donc, autrement dit, j'ai le droit de me poser des questions et j'ai le droit de les crier à Dieu et j'ai le droit de crier à l'injustice et j'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce qui se passe dans le monde et dans ma vie. Et ce droit de crier, c'est Dieu lui-même qui me le donne. C'est Dieu lui-même qui crée un espace pour que je puisse crier ma souffrance, mon sentiment d'injustice à lui-même. Il y a un espace, Dieu me donne un espace pour le questionner, pour l'interroger et peut-être pour le rencontrer. Pour la présentation du parcours Alpha, il y a l'association Alpha France qui a monté un micro-trottoir avec une question pour les passants. Si vous aviez une question à poser à Dieu, quelle serait-elle ? Et là, il pose cette question à une jeune fille tout à fait charmante. Si vous aviez une question à poser à Dieu, quelle serait-elle ? Et la fille répond, Dieu, qu'est-ce que tu fous ? On peut être choqué par l'expression, mais c'était la véritable question, question authentique d'une jeune fille d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fous ? Quand on voit toute la souffrance sur cette terre et dans ma vie, mais qu'est-ce que tu fais là-haut ? Tu t'en fiches ou quoi ? Et je crois que Dieu reçoit ces questions parce que lui poser cette question, c'est déjà le reconnaître, c'est déjà commencer un bout de chemin avec lui, c'est commencer à cheminer et peut-être à espérer qu'il est bien là pour y répondre à ces questions et qu'il est au bout de nos pourquoi. Dieu serait au bout de notre pourquoi. Et il est remarquable de voir que la question de la souffrance, en général, dans une grande majorité des cas, ne semble pas éloigner les gens de Dieu, mais au contraire de les en approcher. Mais nous passons à la deuxième proposition, au deuxième kern sur le chemin. Et elle est illustrée par la souffrance a un rapport avec l'usage que l'on fait de la liberté. Elle est illustrée par les grosses têtes. Philippe Bouvard, en 2014, a invité Guy Gilbert, vous savez, le prêtre chez les Loubards. Et Philippe Bouvard, à la fin de l'émission, en va de sa petite question un peu, enfin sa grande question un peu bateau. Mon cher Guy Gilbert, puisque vous êtes prêtre, veuillez répondre à cette question. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance ? Et Guy Gilbert répond avec sa gouaille habituelle. Mais mon cher Philippe Bouvard, si dans ta liberté, tu te décidais de me foutre ton poing sur la gueule, je cite Guy Gilbert, tu le ferais et je souffrirais certainement, mais c'est pas pour ça que Dieu n'existe pas. Tu fais ton choix libre et si je t'en mettais un en retour, ce serait aussi ma liberté de le faire. Dieu n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Et Philippe Bouvard est passé à autre chose. Mais Guy avait mis en évidence un fait extrêmement important, à savoir qu'un grand nombre de nos souffrances provient de l'usage de la liberté humaine. Je peux me faire souffrir simplement parce que dans ma liberté, je fais des mauvais choix de vie. Je mange trop sucré, trop salé, trop acide et trop gras. Mais je m'en fiche. Mais je vais souffrir. Je fais usage de ma liberté. Il y aurait aussi, et il n'y a pas seulement le chocolat ou le gras dans la vie, il y a aussi tous mes comportements destructeurs, mes choix calamiteux, mes réactions disproportionnées. Oui, l'usage de ma liberté peut être difficile, dangereuse pour la santé. Mais il y a aussi l'usage que l'autre fait de sa liberté et qui peut me faire souffrir. L'autre peut utiliser sa liberté pour me mettre un coup de poing dans la figure ou encore pire, me faire souffrir moralement. C'est sa liberté. C'est mal, mais il est libre de le faire. Il y a des limites posées par la loi. Mais en attendant qu'il les dépasse, ces limites, et que la justice humaine s'en mêle, il fait souffrir les autres. Et on peut dire que c'est injuste, et plus ça prend des proportions, de grandes proportions, plus le sentiment d'injustice monte proportionnellement. Et on se demande pourquoi Dieu n'empêche pas cela, pourquoi Dieu n'a pas empêché le génocide du Rwanda ou la Shoah, et puis tant qu'il y est, il pourrait empêcher cette personne de me faire du mal personnellement, tant qu'il y est. Il devrait empêcher la souffrance. Il pourrait certainement nous empêcher de faire quoi que ce soit qui provoque la souffrance, il pourrait arrêter le point de Philippe Bouvard avant qu'il n'atteigne la gueule de Guy. J'aimais bien l'expression, la gueule de Guy. Il pourrait le faire, il pourrait arrêter tout ça, mais à quel prix ? Au prix de notre liberté. La liberté de Philippe Bouvard, la liberté, ma liberté et toutes nos libertés. Il serait simple pour Dieu de supprimer toutes nos libertés et de faire de nous des robots qui obéiraient au doigt et à l'œil. Sans aucune liberté, il n'y aurait peut-être aucune souffrance. Mais la robotisation du monde n'est pas dans la vision du Dieu d'amour tel que nous le révèle la Bible. Dieu est plutôt à la recherche d'une relation personnelle, libre et responsable avec chacun d'entre nous, tous les individus que nous sommes. Il est tout puissant, il est tout puissant. Mais il attend un choix libre pour une vraie relation. Et je crois que Dieu brûle d'impatience de mettre un terme à toute cette souffrance. Mais non pas en faisant de nous des robots, mais en venant tout réconcilier avec lui-même pour l'apothéose finale. L'apothéose finale, c'est ce qu'on appelle communément le paradis. C'est la réconciliation de tout avec Dieu. Et cette apothéose finale, ce paradis, ne viendra pas comme une compensation à toutes nos souffrances. Vous avez beaucoup souffert sur terre, maintenant c'est le paradis. Mais comme une restauration de toutes choses. Ça, c'est le paradis. La réconciliation de toutes choses. Et je pense que nous sommes dans un temps de patience pour que dans cet usage de la liberté, nous puissions le rechercher à tâtons, comme dit la Bible, en tâtonnant et le trouver pour une relation libre, responsable et vivante, et une relation d'amour avec lui. Troisième proposition, c'est que on peut trouver du sens dans la souffrance. Nous en avons parlé dans la Bible en TGV, donc ce jeudi, et très rapidement, Bible en TGV oblige, cette histoire de Joseph dans Genèse 35 à 50, 15 chapitres pour parler de cette histoire de Joseph, qui commence très mal, qui commence avec de la jalousie, avec des désirs de meurtre, avec de la souffrance, un problème de famille avec les parents, avec les frères, avec un rejet de Joseph qui a vécu pendant X années, le rejet de ses frères. Ça commence très mal, mais à la fin, dans Genèse 50, voilà ce qui est dit, vous l'avez sur l'écran, c'est Joseph qui le dit, « Le mal que vous avez fait, eh bien, Dieu l'a transformé en bien. » Et cette transformation, il l'a fait à travers l'expérience de la souffrance des uns et des autres. Dieu travaille dans la souffrance et par ce travail, il donne sens à la souffrance. Et il y a un certain nombre de personnes qui peuvent témoigner qu'au travers de la souffrance, ils ont pu changer de regard sur la vie. J'ai lu le témoignage d'un homme qui, au cours d'une vente de drogue qui a mal tourné, c'est lui qui vendait la drogue, il a reçu un coup de pistolet, enfin une balle de pistolet dans la tête. Et il a perdu la majorité de son acuité visuelle. Il a perdu aux trois quarts la vue. Et ce gars qui n'était pas un tendre a dit « Alors que mes yeux physiques s'étaient fermés, mes yeux spirituels se sont en quelque sorte ouverts. J'ai fini par voir comment je traitais les gens. J'ai changé et pour la première fois de ma vie, j'ai des amis, de vrais amis. » Et il continue en disant « Le prix à payer fut élevé et je dois dire cependant que cela en valait la peine. Je possède enfin ce qui donne de l'intérêt à la vie. » Et il y a de nombreux témoignages comme cela. Il faut noter quand même, il y a aussi le témoignage de Johnny Erickson, cette femme tétraplégique à l'âge de 16 ans, qui en a maintenant 60, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais ni cet homme, cet ex-vendeur de drogue, ni Johnny, ne sont reconnaissantes pour la tragédie qu'ils ont vécue, ou qu'elles ont vécue, ces personnes. Elles sont reconnaissantes pour le changement de regard que cette tragédie a permis. La différence est notable. On ne fait pas l'apologie de la souffrance. Merci pour cette souffrance. Mais merci pour ce changement de regard que j'ai pu apporter. Je crois que c'est ça qu'ils disent. Alors quelqu'un dira, et on pourrait relever cette objection, tout cela c'est bien joli, mais on n'est pas chez les bisounours ici. Pour une histoire où l'on peut trouver du sens à la souffrance, il y en a des centaines où on ne peut rien trouver, où on ne trouve pas de sens à la souffrance, où il n'y a pas de transformation, où il n'y a pas de belles choses qui arrivent à la fin. Cette objection, oui, est à recevoir. Il y a effectivement des histoires de souffrance où on pourrait sortir de cette souffrance-là, où on ne voit rien. Vous voyez qui pourrait sortir de la souffrance que vous êtes en train de vivre. Mais il faudrait peut-être pouvoir se dire dans ces situations, cette phrase que j'ai lue en préparation à cette application et qui est un peu directe, mais que je trouve intéressante et pertinente, et qui dit « Le fait de ne pas voir de raison à la souffrance ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. » Nous ne voyons pas tout. Nous marchons à tâtons, et c'est là peut-être que la foi rentre en compte. Non pas une foi aveugle, la foi du charbonnier qui dit « Je ne comprends rien, moins je comprends, plus je crois. » Non, la foi qui fait confiance. Qui fait confiance que Dieu s'arrange, que Dieu fait concourir toutes les choses, les bonnes et les mauvaises, au bien commun, ou au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qui lui font confiance. À la fin de l'histoire, à l'apothéose, dont je parlais tout à l'heure, nous verrons comment Dieu a utilisé toutes choses pour le bien, pour notre bien, ou pour le bien, son bien, ou le bien commun de toutes les vies. J'aime cette image d'une tapisserie qui est en train d'être composée, mais que nous voyons à l'envers. Et l'envers d'une tapisserie, c'est pas beau. C'est un écheveau de fils qui n'ont aucun sens, qui ne forment aucun dessin. C'est pas beau, c'est moche. Et on se demande qui est l'auteur de ce micmac, de ce désordre. Mais à la fin, on retourne la tapisserie et là, on voit le chef-d'œuvre, on voit le dessin dans les deux orthographes du terme S-I-N et 2-S-E-I-N. Le but, le sens, l'objectif et la beauté de ce dessin qui donne une fameuse impression. Nous sommes encore aujourd'hui à l'envers. Notre tapisserie est encore à l'envers, mais viendra un temps où nous verrons à l'endroit la tapisserie de nos vies et de l'histoire du monde. Et puis, dernière proposition, Dieu partage notre souffrance humaine d'une manière ultime en Jésus-Christ, à la croix. Et nous avons là la plus belle réponse que le christianisme apporte à la question de la souffrance. Et là, sur un plan personnel, parce que parler de la question de la souffrance d'une manière globale, avec des arguments, un argumentaire, nous fait oublier que la question de la souffrance nous touche personnellement et du domaine de l'intime, du personnel. Et on pourrait, c'est vrai, accepter intellectuellement que la souffrance n'est pas un démenti de l'existence de Dieu. Mais en parallèle, on pourrait se demander, qu'ai-je à faire de tous ces arguments? Moi, je souffre. Et ces arguments n'ont rien à voir et rien à faire avec ma souffrance, avec moi. Et on peut aussi comprendre cette objection, mais c'est là qu'on arrive au cœur de l'Évangile. Ce Dieu dont nous parle la Bible est venu délibérément et volontairement sur la terre pour justement avoir affaire avec notre souffrance, la souffrance humaine, avoir affaire avec ce que je vis, et cette souffrance toute personnelle qui noue ton ventre, qui occupe les pensées et qui nous empêche de dormir, eh bien Jésus est venu pour avoir affaire avec elle. avec moi, dans ma souffrance. Et ma sœur Pascale, en visite aujourd'hui à Cannes avec son mari Marc, qui nous vient du Michigan en Amérique, m'a rappelé que ma mère, notre mère, ardéchoise, aimait beaucoup cette phrase de Paul Claudel, et qui disait « Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer, mais il est venu pour la remplir de sa présence. » Ça, c'est l'Évangile. La remplir de sa présence. En Jésus-Christ, Dieu habite notre souffrance. Et si vous entendez cela pour la première fois, ça paraît un petit peu mystérieux. Mais ça le reste aussi pour le reste d'entre nous. Ce Dieu qui habite la souffrance, qui vit la souffrance pour nous, c'est un mystère, mais c'est un mystère lumineux de l'Évangile, de Dieu qui devient homme pour mourir sur une croix et vivre comme nous, et vivre comme nous, la souffrance est peut-être pire que nous, que notre souffrance. Et la souffrance de Jésus, ce n'est pas le fouet, ce n'est pas la couronne d'épines, ce n'est pas l'abandon de ses disciples, ce n'est pas le rejet de la foule. La souffrance de Jésus, c'est l'abandon de son Père alors qu'il est sur la croix et qu'il va citer le psaume 22 que nous avons lu tout à l'heure, qui a été écrit 1000 ans auparavant, et qu'il va dire sur la croix « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Abandonné dans ma souffrance, abandonné seul dans la souffrance. Il n'y a pas de plus grande souffrance que la perte d'une relation à laquelle vous tenez. Si une vague connaissance se détourne de vous, vous condamne, vous critique et dès qu'elle ne veut plus vous voir, c'est déjà assez pénible. Mais si c'est quelqu'un que vous fréquentez régulièrement, qui vous fait la même chose, qui vous dit qu'il ne veut plus vous voir, c'est encore plus douloureux. Et si cette personne est votre conjoint, qui vous inflige un tel traitement, un même traitement, qui ne veut plus vous voir, ou si c'est un de vos parents qui vous a rejeté, qui ne veut plus vous voir, alors là c'est extrêmement douloureux. C'est une souffrance psychologique infiniment plus importante que celle infligée par une vague connaissance. Et on ne peut pas imaginer ce que peut être d'être séparé d'une relation qui dure de toute éternité, comme la relation entre Christ et son Père. Une relation faite de l'amour infini du Père éternel, et c'est cette souffrance que Jésus a vécue sur la croix, abandonné de son Père, et dans cet abandon sur la croix, et par cet abandon sur la croix, il prenait sur lui toute la noirceur du monde, il portait sur la croix toute la séparation, et il vivait pleinement en lui toute la séparation d'avec Dieu, une souffrance terrible pour prendre sur lui toute ma souffrance, toute votre souffrance. Et ça reste un peu étrange comme idée, je vous l'accorde, et au parcours Alpha, on arrive toujours à ce stade-là. Pourquoi Jésus est-il mort ? Et on est devant l'étonnement, puisqu'il est mort pour moi, pour prendre sur lui ma souffrance. Mais c'est l'Évangile, c'est le cœur de l'Évangile. Ce n'est pas un argument à la question « pourquoi la souffrance ?» ou une réponse à « pourquoi la souffrance ?» C'est un cri que Jésus donne, prononce sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce n'est pas un cri où il renie Dieu, où il rejette Dieu, mais c'est aussi un cri de l'intimité avec Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors qu'il vit la séparation d'avec Dieu, Jésus continue d'utiliser le langage de l'intimité parce que ça, c'est la réponse à la question de la souffrance. Il y a quelque temps encore, il y a quelqu'un qui me disait qu'au cours de sa vie, il s'était forgé une belle carapace. Une carapace qui le protégeait bien, mais qui aussi avait tendance à l'enfermer. Une carapace, et c'est le problème des carapaces et des forteresses. Ça enferme et ça rend insensible. Mais cette personne avait ajouté que la souffrance avait fait des fissures dans la forteresse, des interstices dans la carapace, et que Dieu s'était engouffré dans ces interstices pour pénétrer dans l'intimité de la personne, dans sa fragilité d'être humain en proie à la souffrance. Et quand Dieu entre quelque part dans toutes nos forteresses et nos carapaces, il se passe des choses de l'ordre de l'intime, de l'ordre de la fragilité, de l'ordre du mystère. Et peut-être qu'en ce dimanche de Pentecôte, nous pourrions nous ouvrir à cette action mystérieuse et intérieure de l'homme. Parce que, après tout, à la Pentecôte, c'est le rappel de la venue de l'Esprit et de l'action mystérieuse dans notre intimité, dans notre subjectivité, dans notre sujet. Et qui est celui qui agit dans notre personne, dans notre intimité, si ce n'est le Saint-Esprit? Et ce Saint-Esprit que Dieu nous envoie, hein, j'ai oublié, mais... nous envoie, Jésus l'appelle le Consolateur. Et je lis dans Jean 14, le Saint-Esprit met le Consolateur. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. Je pars, dit Jésus, mais je vous laisse le Consolateur qui vous donnera sa paix. Il nous laisse sa paix, il nous laisse la consolation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et comment il nous donne la consolation? Parce qu'il nous parle de Jésus, c'est Jésus qui le dit, le Saint-Esprit que je vous enverrai vous parlera de moi, de ce que je vous ai dit. Et le Saint-Esprit nous rappelle que Jésus est notre espérance, que nous attendons l'apothéose. Et le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles adoptives, adoptés par Dieu en Jésus-Christ, qui par l'action de l'Esprit nous permet de dire « Abba Père », de retrouver enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, scellés par son Saint-Esprit. « Ce sont mes fils et mes filles », dit Dieu. Et aussi nous rappelle que rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pas même nos souffrances. Oui, le Saint-Esprit est pour nous un consolateur parce qu'il nous rappelle les paroles d'amour de Jésus. Alors on peut ne pas vouloir s'ouvrir à son action. On peut vouloir rester dans sa carapace et dans sa forteresse. C'est notre liberté. Mais on peut aussi choisir de s'ouvrir à son souffle, à son esprit consolateur. C'est ma prière en ce dimanche de Pentecôte. Pour chacun d'entre nous, pour ceux qui sont déjà chrétiens de longue date, s'ouvrir de nouveau à l'esprit de consolation. Et pour ceux peut-être qui sont encore en chemin, peut-être aujourd'hui aussi pouvoir se dire, Seigneur, j'en ai marre de ma carapace qui m'enferme, je veux m'ouvrir à toi pour que tu me consoles et que je puisse cheminer d'une manière nouvelle, avec un regard nouveau dans ma vie. J'invite les musiciens à s'approcher et ils vont chanter un chant « On restera assis » qui s'intitule justement « Souffle » ou « Viens Esprit du Dieu vivant ». Et si c'était une invitation pour vous ce matin à ce qu'il souffle dans votre vie?
va avoir un petit moment de silence et on va vous donner l'occasion de parler à Dieu et de peut-être lui dire, viens, Esprit de Dieu, dans le secret de votre cœur, lui dire, viens me consoler, pour que ça reste pas juste des idées abstraites au niveau intellectuel, mais quelque chose de vrai que l'on vit. Vous pouvez chacun, avec vos propres mots, dire à Dieu, oui, je te fais confiance. Viens me consoler, Saint-Esprit. Si la lune me glace, vous chantez avec moi.
Et le soleil me menace, créateur des étoiles.